Le son des bulles sur RCN.
Eh bien, bonjour à tous, chers auditrices, chers auditeurs de l'émission du son des bulles, la seule émission dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7. Eh bien, bonjour Olivier, alors la forme?
Ah bah ouais, 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 merci bien David. Nous voici déjà au mois de mai et comme on dit, en avril, ne te détourne pas d'un film.
Je te découvre.
Ah, j'ai réinventé. Je ne tourne pas d'un film et en mai, il lit plein de BD.
Eh oui, on va changer un peu les formules.
De
elle est pas mal celle-là. Ça part fort. Pour nous accompagner aujourd'hui à Cugnon, celle qui côtoie et tutoie les plus grands artistes du 9e art. Et nous allons encore le constater aujourd'hui, Francine. Bonjour Francine.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Francine, tu nous mets sur la piste de ce que tu vas un petit peu nous présenter?
Oh, je sais pas moi. Un petit tour à Paris?
Ah ouais. Hein,
sur les bords de Seine?
Oh oui. Avec le beau temps qui arrive.
Oui. Avec la flamme? Non, sans la flamme.
Non, sans la flamme.
Et puis, à nos côtés, il y a aussi celui qui, pour la bande dessinée du siècle et du millénaire dernier, est comme le riz d'une certaine marque, incollable, Charles.
Bonjour, Charles. Oui.
Ça va bien?
Ça va.
Alors, toi aussi, un petit indice, qu'est-ce que tu vas nous présenter?
Ben, je vais vous parler d'un album qui n'existe pas, comme toujours. C'est quelque chose qui n'a pas été terminé, qui n'existe pas. Voilà.
Ah bon? Et tu vas tenir combien de temps avec ça?
Ah mais, comme on peut inventer la fin, parce que ça n'existe pas, on peut tenir encore plusieurs heures.
Ah bon, très bien.
Voilà. Bon, on va réfléchir à la fin. Du coup.
On n'a qu'une heure. Hein.
Oui.
D'accord. Très bien. Et puis, derrière la console, on a aussi le maestro des boutons, des manettes et des curseurs. Bonjour Joris. Ça va bien?
Ça va super.
Super. Eh bien, n'hésite pas à nous rappeler si jamais on fait des petites bourdes. Merci bien. Et puis aussi, on fait un gros bisou.
Bah, Anne-Marie, bien sûr. Hein. François, Jean-Jacques.
Voilà.
Un retenu pour d'autres obligations. Bah, bon, voilà, ça fait partie
du
quotidien.
Eh oui.
Alors, comme d'habitude, l'émission est centrée sur une thématique particulière. Aujourd'hui, c'est l'art. On va donc nous proposer un état de l'art de la BD. On va vous proposer. À moins qu'on ne vous présente des BD dont le sujet est l'art, mais en même temps, on peut très bien traiter la BD en tant qu'art à part entière, puisque depuis les années 60, Maurice, le créateur de Lucky Luke, parle d'elle comme étant le 9e art.
Et oui, c'est vrai, la BD, c'est le 9e art. Bon, c'est quand même un titre honorifique, non? Tu crois qu'on peut mettre au même niveau la peinture et la bande dessinée?
Ah mais attends, des arts, t'en as au moins 20. T'as la cuisine qui est un art,
oui,
t'as ceux qui mettent des fleurs dans des pots, c'est un art aussi.
Décidément. Mais il ne faut pas galvauder quand même. Hein. Nous, on est le 9e.
Voilà. Alors, mais c'est vrai, la BD, donc 9e, c'est bon. C'est... Ah non, pardon. En fait, ça ne sert à rien de comparer les arts entre eux, puisque dans leur intention, leur histoire, leur procédé, tout est différent. Mais bon, on ne va pas rentrer dans un débat sur la définition de l'art. Je pense qu'on en aurait pour plusieurs heures.
Eh oui, alors bon, bah, pourquoi tu penses que la BD est un art? Faudrait quand même réussir à nous convaincre.
Hein. Ah, ça ne suffit pas, là. Bon. Pour moi, il y a plusieurs marqueurs qui l'indiquent. La BD est déjà une longue histoire. Elle est une sorte de giron de la littérature enfantine pour se décliner dans tous les genres. Et le spectre est large. Cela touche au réel, à la fiction, à l'histoire, à la politique et à la psychologie, à l'intimité. Aujourd'hui, la bande dessinée dépeint la société au travers du regard de son auteur.
Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et c'est aussi ce que cherchent les artistes, hein, donner leur vision de la réalité.
Voilà. L'art, c'est émouvoir, c'est questionner. Les grandes écoles d'art intègrent d'ailleurs depuis quelques temps des filières bande dessinée. Il y a par exemple les hautes écoles des arts du Rhin en Alsace, anciennement école des arts décoratifs de Strasbourg, l'école européenne supérieure de l'image d'Angoulême, l'école supérieure d'art de Saint-Luc à Liège en Belgique, d'où sont sortis des auteurs prestigieux comme Franquin, François Schuiten.
Et bien d'autres.
Et bien d'autres.
Oui, parce que la BD, ça a des techniques, ça a un langage qu'il faut apprendre et maîtriser. Mais bon, c'est pas demain qu'un auteur de BD va intégrer la prestigieuse Académie des Beaux-Arts, quand même.
Détrompe-toi, Olivier.
Une femme en plus,
comme disait Francine. Catherine Meurice, dessinatrice, entre autres, de Charlie Hebdo, est devenue membre de l'Institut le 15 janvier 2020. Dans le même esprit, 2022-2023, Benoît Peters s'est vu proposer la présidence de la chaire annuelle de la création artistique au Collège de France. Il y a tenu conférence autour du thème de la poétique de la bande dessinée.
Ah, Benoît Peters, moi, franchement, j'adore. Hein. C'est une des personnes qui a le plus contribué à donner à la BD ses lettres de noblesse. Moi, bon, c'est simple, dès qu'il commence à raconter l'histoire de la bande dessinée, moi, je suis scotché. Ben, maintenant que j'y pense, en baladant l'autre fois à Paris, comme l'a proposé tout à l'heure Francine.
Tu vas pas avec toi.
Je sais pas, il faut toujours se méfier parce que Francine est souvent à Paris, surtout dans les, dans les quoi. Ben, j'ai vu une galerie d'art spécialisée BD.
Ah oui, évidemment, il y en a pas mal. Quelques galeristes se sont lancés dans le créneau de l'exposition et de la vente de planches originales, bien sûr. Ça a beaucoup de succès. Il y a par exemple la galerie Maguen, la galerie Barbier, la galerie Hubert Ibren, la galerie Martel et bien d'autres. On peut aussi, je sais plus si elle existe encore, Francine, c'est la galerie 9e art aussi, elle est encore présente.
Enfin, je crois, oui.
Oui, voilà. Ouais. Bon, il y a plein de petites, ça peut être les galeries majeures, mais il y a aussi plein de petites, petites galeries qui exposent aussi des jeunes auteurs, des moins importants. Si tu as un peu beaucoup d'argent de côté, tu peux t'offrir ces superbes originaux. Par exemple, la planche présentée par Catherine Meurice à la galerie Barbier vaut de 2000 à plus de 10 000 euros.
Ça va encore. Je voudrais dire que certaines planches se vendent beaucoup plus cher.
Certaines sont hors de prix, hein, dépassent le million d'euros. Hein. Tu as des planches de Moebius qui sont aujourd'hui... Même des simples croquis ou des petits roughs de Moebius, ça doit valoir une...
J'ai vu qu'il y avait un Spider-Man qui avait été vendu 3 millions d'euros.
C'est pour possible. Surtout maintenant, il commence même à y avoir des faussaires.
C'est
un art reconnu à partir du moment où t'as des faussaires.
C'est copié. Et puis cerise sur le gâteau, le 29 mai 2024 au 4 novembre 2024, le Centre Pompidou de Paris expose une histoire de la BD de 1964 à 2024. Et oui, on invite maintenant la BD dans les musées.
Eh oui, j'ai déjà mon billet d'entrée pour le 29, justement.
Bravo. Merci, François.
Bravo, super. En même temps, on ne crée plus que la bande dessinée dispose de son propre musée.
Pourquoi pas? C'est le cas, Olivier, c'est le cas.
Ah bon?
À Angoulême. Peut-être ailleurs, mais en tout cas, à Angoulême, visiter la Cité internationale de la BD. C'est un lieu unique en Europe. La cité regroupe un musée, un cinéma, une librairie, une bibliothèque. Et puis, si tu veux pousser jusqu'en Belgique, tu peux aussi visiter le musée de la bande dessinée. Dans les bâtiments style art nouveau, tu trouveras en un seul endroit tout ce qui traite de la bande dessinée européenne, depuis ses origines prestigieuses jusqu'à ses développements les plus récents.
Voilà. Francine, tu y étais?
Bien sûr, deux fois.
Plusieurs fois.
L'Expo Barnido.
Pour manger des frites aussi, chez Léon, à côté, c'est pas loin.
Avec une bonne bière.
Voilà.
Hein, Jupiler ou autre.
À consommer toujours avec
modération, bien sûr. À consommer avec modération. Ok, David, je crois que là, tu m'as convaincu. La BD, c'est réellement un art à part entière.
Bien sûr. Et puis, s'il reste encore des sceptiques autour de cet art, dont je doute, on peut leur proposer d'aller feuilleter les albums comme La dernière reine de Jean-Marc Rochette chez Casterman.
Moi, j'ai bien aimé Peter et Lisa de Miroslav Sekulic chez Actes Sud.
Tu peux le redire?
Miroslav Sekulic chez Actes Sud. Il y a aussi...
Le roi des méduses de Bretch Evans, toujours chez Actes Sud.
Ah, c'est le roi méduses.
Dont on a parlé dans la dernière émission, justement.
Mais oui.
Oui, c'est vrai.
Et l'exposition à Paris, à la Galerie Martel, se termine à la fin de cette semaine. Ouais. Donc, si vous passez par Paris, vous pouvez aller la voir, mais il faut se dépêcher.
Il faut se dépêcher, c'est vrai.
Il faut que lui prête ces expositions, quand même.
Bretch
Evans, c'était à la parenthèse la semaine dernière.
Oui, c'est vrai.
En dédicace.
D'accord.
Qu'est-ce qui était aussi?
Pas évident.
Comment?
J'étais aussi. Elle est partout. Et voilà, et puis sans oublier toute l'œuvre de Giraud, de Bilal, de Loustal, et puis bien sûr, j'en oublie plein d'autres.
Bon, maintenant que tout est clair dans les relations entre art et BD, on va pouvoir commencer l'émission.
Oui, on va pouvoir commencer.
On va se tourner vers Francine, qui nous propose une visite.
Dans les musées.
Voilà,
on reste dans les musées.
Avec un chat.
Avec un chat.
Non, oui. Pas du tout.
Un chat bouté.
Un chat bouté,
d'accord.
Oh, jeu de mots. Mais pas hors du musée.
Alors oui, art et BD, vaste sujet. Il a fallu faire un choix très difficile. Hein. Donc j'ai opté pour les musées et plus spécialement les collections coéditées avec des musées. Alors, outre la collaboration avec le Louvre, les éditions Futuropolis se sont également invitées au musée d'Orsay à travers 4 albums. Alors, c'est Catherine Meurice, dont on vient de parler justement, qui a ouvert le bal en 2014 avec l'album Moderne Olympia. Suivront les variations d'Orsay de Manuel Fior en 2015, L'art d'en bas au musée d'Orsay par Plonk et Replonk en 2016, puis Les disparus ES, je précise, d'Orsay de Stéphane Levallois en 2017. Mais j'ai choisi de vous parler d'un autre album, toujours coédité par le Musée d'Orsay, paru, lui, l'an dernier, non pas chez Futuropolis, mais chez Glénat, qui s'intitule tout simplement Musée. Alors, Grand Prix RTL de la BD 2023, il est signé par un des maîtres du noir et blanc. Je veux parler, évidemment, de Christophe
Chabouté.
Chabouté. Alors, le pitch de l'éditeur, parce qu'il résume vraiment tout et il le fait vraiment très bien. Alors, qui regarde qui ? Entre les statues de marbre et les tableaux de maître, les visiteurs du musée d'Orsay posent tantôt des yeux admiratifs, tantôt un regard perplexe sur les chefs-d'œuvre qui bordent les allées. Ils échangent dans un murmure discret et continuent leur déambulation. Mais lorsque les portes du musée d'Orsay ferment et que la nuit tombe, les sculptures et les peintures quittent la pose, descendent de leur socle, s'animent, se détendent, se mettent à raconter, s'interrogent ou commentent ce qu'elles ont pu voir ou entendre au cours de la journée. L'Olympia de Manet est la même que celle de Catherine Meurice, qui en a peut-être assez de passer sa vie allongée, déserte sa couche. Les raboteurs de parquet de caillebotte, fatigués, délaissent les lattes du parquet et Héraclès se dirige, comme à son habitude, tout droit vers sa pièce favorite. Sa pièce favorite ? Les toilettes.
Ah,
et oui, parce qu'il se pose énormément de questions justement sur l'utilité des toilettes.
Exact.
Alors certains se retrouvent pour dresser un portrait peu flatteur des visiteurs indélicats, d'autres désabusés, ce soit pour observer l'absurdité du monde à travers les vitraux de la grande horloge, d'autres encore accueillent les nouveaux venus, car les collections s'agrandissent. Et au petit matin, toutes les œuvres gagnent leur socle ou leur cadre et reprennent la pose avant l'ouverture des portes. Un quotidien au musée où l'on découvre que tour à tour les rôles s'inversent. Que peuvent bien penser de nous les peintures et les sculptures à force de nous observer et de nous écouter dans les couloirs et les salles d'amusée tout au long de la journée. Ce que de jour les regardeurs disent des regardés et surtout ce que de nuit les regardés racontent des regardeurs, le lecteur devient témoin et spectateur d'un quotidien aussi bien nocturne que diurne dans le musée. Fin observateur, Christophe Chabouté signe un album plein de poésie qui nous invite à réfléchir sur notre rapport à l'art, nos certitudes et à la manière dont nous percevons le monde. Se jouant des visiteurs mais jamais du lecteur, il laisse place à la contemplation avec humour et sensibilité. Alors j'ajouterai à cela que bien sûr c'est un album entièrement en noir et blanc, de 192 pages, les 40 premières entièrement muettes, jouant sur les déambulations des visiteurs. Le dessinateur n'a pas son pareil pour capter comme il l'avait déjà fait pour les passagers d'un taxi new-yorkais dans son précédent album Yellow Cab, paru toujours chez Glénat en 2021, les expressions, les regards, les postures des visiteurs. Alors pour la petite anecdote concernant la naissance de ce projet, à 17-18 ans, alors étudiant en Beaux-Arts, Christophe Chabouté était allé pour la première fois au musée d'Orsay et était tombé par hasard sur les parlementaires, ces petites statuettes de Daumier. Il avait alors eu l'impression qu'elles chuchotaient entre elles et se racontaient des choses dans et sur le dos des visiteurs. Il y a 4 ou 5 ans, retourné à Orsay, il est retombé devant les petites statuettes et a eu exactement la même impression. D'où le point de départ de ce magnifique album plein de poésie, teinté d'une pointe d'humour et de légèreté, qui interroge donc notre rapport aux œuvres et à l'art en général, dans lequel, bien sûr, les statuettes vont jouer les commères. Alors, pour clore le sujet, une expo Chabouté se tient actuellement à la Maison de la BD de Blois, et ce, jusqu'au 15 juin.
Ah, super.
Musée de Christophe Chabouté, une des meilleures BD de l'an dernier.
Ah oui. Et du coup, quand tu visites les musées, tu te dis, tiens, est-ce que...
Je suis retournée
à Orsay.
Au musée, parce que c'est un de mes musées préférés. Je suis retournée à Orsay après. Et c'est absolument génial parce qu'il y a aussi des plans, il y a des planches entières où on voit les jambes simplement. Parce que c'est le regard à la limite du gardien de musée qui est assis. Et je me suis assise et je me suis amusée. Et ben voilà, c'est vrai que c'est ce que voit le gardien de musée, il voit les jambes et c'est absolument fantastique.
Ah ouais,
les déambulations,
super.
Etc.
Comme quoi, c'est intéressant que la bande dessinée, des histoires comme ça puissent changer notre regard un peu sur le monde et sur ce qui nous entoure.
Carrément.
Et sinon, les toilettes, tout le monde sait à quoi ça sert aussi.
Quand
Héraclès, toujours pas.
Toujours pas.
Oui.
Bon, bah, très bien. Merci, merci pour cette visite dans les musées, Francine. Donc, on va passer. Alors, Charles, je sais pas, présente-nous cet album n'existe pas, quoi.
Donc, le voilà quand même.
Ah,
si veux. Bon, alors. J'allais dire qu'à chaque émission, je vous parle de Tintin, quand même.
Ouais,
bon. Mais la dernière fois, on parlait de l'Afrique, je vous ai parlé de Tintin au Congo. Et là, on parle d'art, donc c'est l'Alpha. Alors, c'est pas vraiment une BD, puisque là, on a que le scénario. C'est un ouvrage qui se présente comme ça, c'est-à-dire que c'est le scénario qui a été récupéré par Benoît Peter, je vous en parlerai. Et on a ici le premier découpage d'Hergé, c'est-à-dire que c'est simplement les ébauches. Et en fait, ce travail se termine à la page 41, puisque Hergé avait commencé à travailler sur cet album en 1980, il est mort en 1983. Et on ne sait pas du tout ce que pourrait être la suite de cette affaire-là, parce que la gestation des scénarios d'Hergé, c'était toujours très long. Pensez que, par exemple, pour Tintin, les Picaros, il a mis 12 ans pour faire le scénario. Parce qu'il partait sur une idée, même quand il y avait les crayonnés comme ça, puis après, il pouvait partir sur totalement autre chose. Donc on ne sait pas quelle aurait pu être l'histoire de cet album. Donc en fait, il a été publié en l'état. Alors, quelle est cette histoire? Justement, au départ, la première idée d'Hergé, c'était de faire un scénario où on pourrait commencer à n'importe quelle page. Bon, ça aurait été nouveau dans BD, mais bon, c'était compliqué, donc il a reporté et il voulait parler d'art. Il était vraiment dans une période branchée, je dirais pourquoi. Alors, c'est une histoire qui parle de faux tableaux qui sont vendus par une secte, en gros, c'est l'histoire. Et dans une secte, il y a un gourou qui sera le nœud de l'intrigue, un gourou qui s'appelle Andadin Ancas. Et Andadin Ancas, c'est du patois bruxellois, ça veut dire ça t'embouche un coin. Bon, c'est ce que. Bon, mais j'ai vu ça sur Internet, je ne peux pas vous vérifier, je ne sais pas. Alors, donc, plusieurs personnages ont inspiré Hergé pour écrire cette histoire. Alors, le plus connu, c'est Fernand Le Gros. Qui était Fernand Le Gros? C'était un Américain d'origine française, très connu dans les années 70, parce qu'il avait réussi à vendre des faux Toulouse-Lautrec, c'est pas rien quand même. C'était donc il a fait fortune, mais bien sûr il s'est fait prendre, donc il y a eu plusieurs plaintes et tout, donc il a fini en prison. Mais c'était un personnage romanesque et tout, donc il y a eu des tas d'études qui ont été faites sur lui pour quand même réussir à faire des faux Toulouse-Lautrec, les vendre et s'enrichir, c'est quand même pas rien. Donc, et le deuxième personnage qui s'est inspiré, c'est le gourou, qui inspire le gourou Andadin Ancas, qui veut dire « je t'embouche un coin ». Donc c'est un gourou indien qui s'appelle alors Bhagwan Shri Rajneesh, fondateur d'un mouvement sectaire qui s'appelle la méditation dynamique. Alors là, on est vraiment au cours des années 70, c'est-à-dire que on découvrait quel était le pouvoir de nuisance des sectes. Avant, on n'en parlait pas tellement, mais là, surtout qu'il y a eu une affaire extraordinaire, c'est l'affaire du temple solaire, je me souviens, un suicide collectif de 914 personnes. Donc c'était, dans les époques-là, quelque chose qui a frappé les esprits, les sectes. On se rappelle de la secte Moon, qui était pas mal. Enfin, on a tous vu, les défilés des Krishna, si vous vous souvenez. Hare Krishna. Il y avait beaucoup de toutes sortes de mouvements qui ont inspiré Hergé, justement, pour parler de ces mouvements inspirés par des gourous et qui avaient des pratiques occultes, etc. Bon. Alors, pourquoi Hergé s'intéresse à l'art? C'est-à-dire que, donc ça commence quand il a, vers 1957, il a 50 ans, il commence à être un auteur reconnu. Et il s'intéresse à l'art moderne, vraiment. Donc, et il soutient financièrement, par exemple, l'ouverture de galeries. Il côtoie des artistes, des collectionneurs, des marchands, des critiques d'art. Et il devient un amateur d'art vraiment averti. Alors, il faut savoir qu'il s'est essayé lui-même à la peinture abstraite. Il a peint 37 toiles d'art abstrait. Alors, influencé par Joan Miró, Paul Klee, Serge Poliakov, mais alors les rares proches amateurs qui étaient au courant de sa passion ont reconnu que c'était des œuvres de bonne facture, mais qui n'apportaient rien à la peinture contemporaine. Hergé a été découragé, surtout qu'il avait déjà un tempérament dépressif, donc nouvelle dépression. Alors du coup, il a abandonné de peindre, mais il s'est contenté d'enrichir sa collection. Alors sa collection, c'était pas rien, il possédait en outre des œuvres de Joan Miró, de Luca Fontania, du sculpteur Michael Béroquet, des tableaux de Serge Poliakov, de Jean Dubuffet. Et sa dernière acquisition a été, en 1982, une mosaïque de Polaroid de Stéphane de Jäger. Alors, à partir de 1957, on peut voir dans les albums, justement, cette influence sur peinture contemporaine. Il y a quelques vignettes, par exemple, dans le premier album, c'est dans Tintin au Tibet, où on voit des tableaux. Et après, ça augmente. Par exemple, dans le Cocon Stock, alors les tableaux qui ornent les murs de l'hôtel Excelsior, c'est des peintures modernes. Et il y a même la représentation d'un Picasso dans le yacht de Rastapopoulos. Donc ça allait assez loin. Et puis après, bon, bah, toujours des sculptures et des peintures encore plus visibles, de plus en plus dans les œuvres, notamment dans Tintin, Elle et Picaros. Alors, ce qu'on peut dire sur l'Alpha, c'est que sur l'évolution et l'histoire qu'envisage Hervé, c'est le flou le plus total. Au cours de sa dernière interview avec Massadoul, il a déclaré « Je ne peux malheureusement pas dire grand-chose de cette aventure de Tintin, parce qu'il y a 3 ans que j'ai commencé, et je ne sais toujours pas comment l'histoire va évoluer. » En fait, il aurait pu revenir en arrière et partir totalement différemment. J'ai dit, par exemple, quand on compare à Tintin les Picaros, bon, 12 ans de gestation, parce que bon, il était poussé par ses collaborateurs. On sait que, par exemple, il travaillait, par exemple, quand il a fait Objectif Lune, le scénario d'Objectif Lune a été suspendu parce qu'il était en grande dépression. Mm-hmm. Il partait, il revenait, enfin bon, c'était quand même. Il avait quand même de sérieux problèmes. Alors, apparemment, j'ai lu qu'il était hanté par la pureté. Il faisait des rêves tout blancs, des trucs comme ça. C'est quand même très, très, très curieux. Alors, maintenant, on ne sait pas ce qu'aurait pu être un peu cette histoire. Donc, il y en a qui pensent que peut-être, après, il aurait pu faire repartir les aventures de Tintin sur encore du trafic de drogue. Et surtout, certains spécialistes pensent que Andadine Ancas, ça t'embouche un coin, serait en réalité Roberto Rastapopoulos. Possible, on ne sait pas. Voilà.
Et il n'était pas mort, lui.
Alors,
il n'était pas mort.
C'est de la BD.
Il est tombé.
On ne sait pas.
Il n'y a pas de corps, on ne sait pas.
Voilà, bon.
C'est de la BD.
Alors, donc Hergé, de son vivant, a affirmé qu'il ne souhaitait pas que son œuvre soit reprise quand il y a que lui qui pouvait dessiner Tintin. Bon. Alors, pourtant, il y a bien des artistes, parce qu'il y avait un studio Hergé, qui aurait pu terminer cette histoire, parce qu'il y avait déjà 41 pages de scénario avancées. Il en avait certainement déjà parlé avec d'autres, donc et on a retrouvé depuis d'autres esquisses. Donc, on pense, par exemple, Bob Demoure aurait été capable de terminer l'album. Mais finalement, les éditions Casterman ont confié à Benoît Peters, dont tu parlais tout à l'heure, le soin de récupérer le scénario, de le mettre en forme, parce que bon, il a présenté ça un peu comme une pièce de théâtre, pour dire, parce que bon, il n'y avait que des notes éparses. Donc il a retravaillé le scénario et récupéré les premières esquisses d'Hergé et c'est publié tel quel. Alors quand même, quand le bouquin est sorti en 86, pour un prix de vente élevé à l'époque, 200 francs, c'est cher à l'époque, premier tirage, 250 000 exemplaires vendus. Succès de librairie, on ne s'y attendait pas. Quoi.
Ouais, ouais. Et quelque chose pas fini, quoi, finalement. Enfin,
mais c'est vrai que ça intéresse beaucoup de gens de voir comment, comment Hergé travaillait. Et du coup, donc, on a retrouvé d'autres esquisses, et il y a eu un nouveau tirage qui a été publié en 2004. Donc, bon, un peu plus complet, avec plus d'explications, etc. Parce que là, bon, c'est vraiment, ça intéresse les spécialistes, c'est, on a le scénario cru et les esquisses. Quoi. Alors, notons quand même que plusieurs dessinateurs dans les BD pirates se sont attelés à la tâche de terminer cette aventure de Tintin, bien sûr. Alors, la plus connue... celle de Yves Rodier, c'est la plus connue, téléchargeable sur Internet, vous pouvez y aller, il y a un PDF téléchargeable. Et là, même Bob Demoure a reconnu que c'était un travail remarquable fait par un passionné d'Hergé. Il a mis 4 ans pour terminer le scénario. Donc, tout à l'heure, on pourrait, si on a le temps, chercher des histoires. Comment se termine cette dernière planche de Tintin? C'est qu'il est pris par Andadine Ancas, il est mis dans une caisse, et dessus, on va couler du polystyrène pour qu'il soit transformé en statue qui se rappellera le reporter. Voilà, donc, la dernière case, Tintin va recevoir du polystyrène. Donc, maintenant, je vous laisse imaginer la fin. Comment il va s'en sortir? Et voilà, c'est on ne sait pas. Donc là, il y a plusieurs scénarios qui ont été envisagés.
Ouais, des pistes.
Et je vous laisse. Donc mes scénarios, il manque. Donc on est à la page 41, il faut faire 21 pages.
21 voilà. pages. Si on donne juste une idée à la fin de l'émission, ça marche quand
ça
même.
Tu peux le faire.
C'est possible. Très bien. Puis après, tu n'auras plus qu'à la dessiner et à la proposer au studio Hergé. Voilà.
Et puis, alors, celui-là, il vaut combien, là, celui que tu nous présentes
celle-là, elle n'a plus de prix, quoi. C'est la première édition. C'est l'émission de 1986. Alors là, tu vois.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Charles.
Merci, Charles.
On va passer à la pause musicale avec un thématique oblige.
Oui.
Pablo Picasso par David Bowie.
Le son des bulles sur RCN.
Eh bien, nous voici de retour sur l'émission RCN Le son des bulles, 90.7. On va procéder, Francine, bah, peut-être du coup à l'appel.
Alors,
de...
pas tout de suite. Après le musée d'Orsay, je vous invite à me suivre dans un des plus prestigieux musées du monde. Je veux parler...
Le Louvre.
Du Louvre, bien sûr. Alors, depuis 2005, la collection éditée par le musée du Louvre et Futuropolis donne carte blanche à des auteurs de bandes dessinées en leur ouvrant les portes du musée, instaurant ainsi un dialogue entre les œuvres, les collections du Louvre et le regard contemporain des artistes. C'est Nicolas de Crécy qui ouvre le feu avec Période glaciaire. Pas moins de 23 albums ont été édités depuis, le dernier en date paru en août 2023 étant Le Grand Incident de Zelba, qui signe là son troisième album chez Futuropolis, après Dans le même bateau, récit autobiographique sur son expérience de sportif de haut niveau en ex-Allemagne de l'Est en 2019, et Mes mauvaises filles, album dans lequel elle avait abordé avec une grande sensibilité la fin de la vie et la mort assistée de sa mère en 2021. Mais revenons au grand incident. Que s'est-il donc passé au Louvre et qui mieux que Zelba pourrait nous expliquer tout ça ? Magie du téléphone. Alors bonjour Zelba.
Bonjour Francine.
Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre précieux temps afin d'échanger autour de votre dernier album, Le Grand Incident.
Alors, c'est un plaisir.
Alors, il faut dire qu'il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, inexplicable, qui va provoquer, chose qui ne s'était pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale, la fermeture du Louvre pendant 3 mois, à cause de justement ce qu'on a pudiquement appelé le grand incident. Alors, ce grand incident, c'est quoi et quelle en est la cause?
Ah, alors, ça va être difficile de le dire en une phrase, mais je vais essayer de faire
phrase,
bref.
Voilà.
Alors, le grand incident, eh bien, c'est tout simplement le fait que toutes les femmes nues des œuvres du Louvre, que ce soit dans les sculptures ou dans les toiles, disparaissent, deviennent transparentes. Et donc, voilà, personne ne comprend pourquoi ça se passe. Enfin, il y a une personne qui sait très bien, et c'est Teresa, la femme des ménages du Louvre depuis plus de 30 ans, qui entend parler les sculptures et les femmes nues dans les œuvres, et elle converse avec eux, avec elles.
Et quel est leur problème, en fait, alors, à ces femmes nues?
Alors oui, ces femmes cherchent à s'invisibiliser toutes seules parce que elles en ont marre de toutes ces réflexions sexistes, les attouchements par des visiteurs ou certains visiteurs mâles du Louvre, et c'est leur façon de montrer. C'est comme une grève un petit peu que font ces femmes des œuvres.
Oui, alors justement, dans la postface, vous définissez le grand incident comme une phase burlesque, un conte fantastico-comique. J'y arriverai. Alors, qu'entendez-vous par là?
Alors, fantastico-comique, parce que c'est déjà dans le mot. Hein, c'est oui. Bien, je prends quelque chose, c'est une fable. Donc, dans une fable, souvent, on fait parler des animaux. Moi, je fais parler des œuvres, les œuvres d'art. Le fait que ces femmes dans les œuvres deviennent transparentes, c'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver dans la vraie vie. Donc ça a un côté fantastique.
Oui, c'est le côté fantastique.
Voilà, de la fable, mais c'est aussi pour donc comique. Oui, j'essaye d'aborder tous ces sujets qui sont la sexualisation de la nudité féminine, le harcèlement de rue
aussi,
le
oui.
plafond de verre aussi que rencontrent souvent encore les femmes quand elles essayent d'atteindre les plus hauts niveaux de l'hiérarchie. Tous ces sujets-là, j'essaye de les aborder avec de l'humour. Donc,
c'est très réussi avec l'humour qu'on vous connaît d'ailleurs, comme dans toute votre œuvre.
Ah bon, en fait, j'aime bien parler de choses pas drôles du tout, mais de pouvoir quand même en rire un petit peu. Je trouve que ça, non seulement ça crée un certain décalage, ça nous enlève peut-être un tout petit peu du côté trop dramatique ou trop lourd, mais sans pour autant taire les problèmes. Donc il faut aborder les choses, il faut en parler, mais pourquoi pas faire ça avec un petit peu d'humour et un petit peu de tendresse.
Un décalage, par exemple, les statues qui parlent entre elles en refaisant des vers, etc. Mais les propos sont sont très fleuris, par contre.
Oui,
hein, par exemple.
Oui, voilà, mais ça c'est parce que j'aime beaucoup au début d'un projet, quand je suis tout au début et je peux partir dans tous les sens, théoriquement, c'est un petit peu angoissant parce qu'on se dit, oulala, je me fixe des cadres, hein, je me fixe des petits cadres comme ça dans lesquels j'évolue au fil du projet. Et donc, un de mes cadres, c'était ce langage. En fait, je me suis dit, les sculptures, il faut qu'ils parlent en vers. Comme ça, je m'amuse un petit peu à écrire des vers en hit et en houille. et voilà, et un petit, voilà, ça c'était un de mes, des petits défis que je me fixe à moi-même. Et un autre cadre, par exemple, c'était le côté graphique de l'album. C'est que j'ai décidé de dessiner toute l'histoire courante, donc toute la fable est dessinée dans une bichromie, le noir et le rouge pour les scènes du jour et le noir et le bleu pour les scènes du soir et de la nuit. Et les seuls moments où vraiment les couleurs éclatent, et j'utilise des aquarelles, c'est vraiment pour reproduire des œuvres, reproduire des toiles, et pour leur donner la part belle et pour qu'elle se remarque tout de suite dans une planche. Voilà.
Oui, justement, j'allais y venir. Et tout ça, évidemment, c'est fait en tradi.
Oui, oui, bien sûr. J'ai travaillé là, j'ai travaillé sur un sur papier, sur un très joli papier d'ailleurs, un papier très épais, un papier aquarelle qui est un petit peu structuré et qui avait au début, je ne me suis pas trop rendu compte, mais j'ai dessiné à la plume. Pour tout ce qui est décor et les petits personnages. Et quand c'était des gros plans, j'ai pris le pinceau et j'ai dessiné au pinceau. Et ben, la plume sur ce papier structuré, parfois, elle l'accrochait un petit peu et ça a créé des petits accidents qui, au début, m'ont un petit peu perturbée. Mais après, je me suis dit, en fait, c'est plutôt intéressant. Il faut... Je ne peux pas revenir en arrière, donc je prends ces petites surprises, ces petits accidents heureux, et je fais avec. Et en fait, je trouve que finalement, ça fonctionne très bien.
Oui, tout à fait. Alors justement, vous parliez du début du projet. Et dans la postface, vous dites que quand on vous a proposé d'entrer dans la collection coéditée par Le Loup, vous avez été frappé à la fois de fierté, et du syndrome de l'imposteur. Alors, pourquoi syndrome de l'imposteur? La fierté, je comprends, mais le syndrome de l'imposteur?
Alors, ça, c'est... Je pense que ça joue aussi... ces dernières années, c'est vraiment un livre de prise de conscience aussi. C'est une prise de conscience en tant que femme dans un milieu qui, pendant très longtemps, était très majoritairement masculin et où c'était assez difficile au début de faire sa place aussi, d'être prise au sérieux, de s'imposer.
D'ailleurs, à noter que dans la collection, sur les 23, vous n'êtes que deux femmes.
Oui, voilà, quand on m'a proposé, quand j'ai eu cette gentille invitation par Futuropolis et la collection Louvre, j'ai regardé un petit peu. Je connaissais quelques albums de la collection, mais je ne les connaissais pas tous. Et quand j'ai regardé un petit peu la liste de tous les auteurs, et je dis bien tous les auteurs, et pas toutes les autrices aussi, c'est que à cette époque-là, il y avait aucune autrice seule aux commandes. Donc ça m'avait frappé, et j'étais fière d'être invitée dans cette belle collection, mais voilà, je me suis dit oulala, je t'es jamais allée au Louvre. t'es la première nana ou la deuxième, parce que j'ai appris après que Judith van de Stendhal sortait son livre dans la collection 6 mois avant le mien. Donc j'étais la deuxième femme, ouf. J'étais pas la première. Mais voilà, donc j'ai essayé de tisser un petit peu des liens entre ces différentes informations aussi, parce que avec l'histoire du Louvre, qui en 230 ans n'a jamais eu de présidente directrice.
Exactement, c'est le cas maintenant.
Et voilà, et qui est arrivée, la toute première femme, Laurence Descartes, est arrivée pendant mon travail sur le livre. Donc ça m'a fait très plaisir de voir que une femme arrivait à la tête du Louvre pour la toute première fois. Donc je me suis dit, c'est bien, ça fait écho à ce que je suis en train de raconter.
Tout à fait, oui. Alors, sous l'humour et la légèreté, la profondeur, vous questionnez la sexualisation du corps féminin et la nudité féminine à travers l'histoire de l'art, à travers notamment Psyché abandonnée, et Suzanne et les vieillards. Alors, vous dites que c'était la première fois que vous alliez au Louvre pour cet album. Alors, pourquoi avoir fait ce choix de ces œuvres-là et des autres œuvres? On aurait pu s'attendre à Boucher ou Fragonard, par exemple.
Alors, premièrement, j'avais envie de mettre un petit peu en lumière aussi des œuvres qui n'étaient pas trop souvent déjà abordées dans d'autres dans d'autres livres dans la collection. Et puis j'ai bien sûr cherché surtout des œuvres qui allaient dans le sens de ce que j'avais envie de raconter. Et cette histoire de Suzanne Aubin, ou Surprise Aubin par les deux vieillards, c'est très intéressant parce que c'est une œuvre qui, ou un sujet plutôt, qui existe en maintes versions au Louvre. Donc il y a des sculptures, il y a plusieurs toiles qui traitent de ce sujet, il y a des porcelaines, il y a tout un service d'assiettes en porcelaine qui raconte toute l'histoire biblique de Suzanne surprise au bain par les deux vieillards. Et je trouvais intéressant, comme je voulais faire le pont entre l'histoire de l'art et notre société d'aujourd'hui, et parler aussi du harcèlement de rue.
Tout à fait.
Cette histoire-là parle un petit peu de ça aussi. C'est cette jeune femme, enfin qui est d'ailleurs pas si jeune que ça, elle est très souvent représentée comme une jeune vierge. Et en fait, quand on lit l'histoire biblique, Suzanne avait déjà au moins 4 enfants. Donc elle pouvait pas être ni adolescente, ni avoir un corps de toute jeune fille après avoir enfanté 4 fois. Donc c'est intéressant. Comme il y a beaucoup de fantasmes que les artistes et peut-être les commanditaires aussi à l'époque ont fait entrer dans les œuvres et où on sent vraiment que c'est un art fait par les hommes pour les hommes.
Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, justement, un art fait par les hommes pour les hommes, mais ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cet album, c'est la subtilité de votre propos. Hein. Tout en ayant un côté féministe assumé, c'est pas manichéen du tout, c'est pas un procès contre les hommes, mais plutôt un manifeste pour l'évolution des comportements pour tendre vers l'égalité des sexes, et qui va d'ailleurs trouver son apogée dans l'épilogue de l'album, mais j'en dirai pas plus sur l'épilogue.
Oui, je pense que il y a des hommes, il y a des femmes, il y a aujourd'hui d'autres genres en plus, des non-genrés, etc. Et je pense que c'est une richesse. Et avec ces richesses-là, il faut qu'on réfléchisse toutes et tous ensemble à un nouveau modèle. Parce que le modèle en place, il est pas terrible. Il est pas terrible, surtout pour les femmes. Et je pense que tout ça se fait avec les hommes et pas contre les hommes, parce que j'aime pas beaucoup la vengeance en général. Enfin, c'est pas parce que les femmes ont été discriminées pendant des siècles et des siècles que maintenant les hommes doivent souffrir. Je ne suis pas pour ça.
Et c'est pour ça que votre album est aussi fort, je trouve. Il y a tout, de l'humour, ce n'est pas manichéen. On apprend aussi cette façon de voir aussi l'histoire de l'art. Je trouvais ça absolument fantastique.
Oh bah c'est très gentil, ça me fait très plaisir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu la grande chance d'avoir donc mon petit badge pendant 2 ans. J'ai pu aller au Louvre pour faire mon travail, croquer, prendre des photos, rencontrer des personnes. J'étais d'ailleurs très bien accompagnée par mon éditeur du Louvre, Fabrice Douard,
qui m'a fait... Excusez-moi, qu'on retrouve sous le nom du professeur Douard. Il n'y a pas un petit jeu de mots là-dessus? Ainsi que le nom des élèves?
Oui, c'est comme ça que quand on fait des albums, parfois on glisse des petits clins d'œil dedans à des collègues et amis. et c'était très intéressant parce que j'ai pu rencontrer une jeune conservatrice du département des peintures du Louvre qui a aiguisé mon regard vraiment. D'ailleurs, c'est elle qui m'a raconter aussi l'histoire de cette toile, parce que je voulais absolument mettre aussi au moins une œuvre faite par une femme dans ce livre. Et c'est très difficile de trouver une œuvre faite par une femme artiste au Louvre, parce qu'il y a vraiment pratiquement que des mecs. C'est terrible. et donc ce portrait d'une femme noire, ou qu'on appelle aussi le portrait de Madeleine, a une histoire vraiment passionnante. J'ai eu de l'aide aussi pour écrire mon histoire, pour l'enrichir vraiment de choses réelles et des choses que voilà, moi je ne suis pas historienne d'art, donc je suis autrice de BD, donc j'étais très contente d'avoir un petit peu des personnes qui m'ont conseillé et qui m'ont aidé à approfondir ce récit.
Oui, alors pour terminer, vous avez un nouveau projet, vous êtes sur des projets là actuellement?
Oui, bien sûr, toujours. Ah ben là, ça fait déjà presque une année que j'ai commencé il y a un an à peu près à me documenter, en tout cas, mm-hmm. déjà pour ce projet qui est cette fois-ci une BD reportage. Mm-hmm. Et qui me demande énormément de documentation. C'est un vrai travail journalistique que je suis en train de faire avec une co-autrice. En plus, mmh. j'ai Isabelle Autissier mmh. à mes côtés. Et ensemble, nous allons parler des mers et océans.
Eh bien, merci beaucoup Zelba. Alors, on attend le prochain album avec impatience.
Merci beaucoup et merci pour ce petit coup de projecteur sur mon grand incident, ça me fait très plaisir.
Eh bien, merci. Au revoir.
Au revoir.
Merci, merci. C'était super
intéressant.
Je signale aussi Prix Artemisia Humour 2024. Ouais. Le Prix Artemisia étant effectivement un prix dédié à la BD féministe.
Ah, voilà.
Voilà.
Très, très chouette. Et donc, Francine, par rapport à cette... album, donc tu es la seule femme ici présente.
Voilà, normalement on a à peu près égalité.
Nous, les gars, on va se mettre nus.
Joris n'est pas d'accord.
Bon, il faut que c'est l'unanimité ou rien.
Les libraires ont joué le jeu. Hein. Ah, oui. Pour de l'album, il y a énormément de libraires qui se sont dénudés justement avec l'album en cache-sexe.
Pas mal. Très sympa. Bon, David, alors. Tu fais ta rubrique comment ?
Eh ben écoute, moi je vais pas.
On va passer un autre ton, c'est l'île des morts.
On va descendre d'un cran. Non, je vais vous parler de l'île des morts de Mosdy et Thomas. Guillaume Sorel et Thomas Mosdy. Alors c'est une vieille BD, hein, on n'est pas sur de la nouveauté, mais comme on est sur le thème de l'art dans la bande dessinée, l'île des morts est une série de BD fantastiques éditée par Vent d'Ouest qui a été rééditée en 2019 en intégrale. Écrite par Mosdy et dessinée par Sorel, donc avec un trait particulier dans l'univers de Howard Philip Lovecraft. C'est à peu près le contexte dans lequel ça se passe. L'histoire s'inscrit dans un cadre du mythe de Cthulhu au début du XXe siècle. Elle présente le tableau de l'île des morts, dit Totenschild. Alors, je n'ai pas le bon accent en allemand, excusez-moi.
Dit Totenschild,
d'Arnold Böcklin, comme une œuvre éminemment maléfique, autour de laquelle gravitent tout un tas de cultistes d'Europe. L'île des morts, c'est une série de 5 tableaux peints entre 1880 et 1886 par Arnold Böcklin. Elle présente une île au coucher du soleil vers laquelle se dirige une embarcation conduite par un passeur. À ses côtés, dans le bateau, un défunt debout sur son linceul. Sur l'île, une cour dans l'ombre, des rochers escarpés, des hauts cyprès qui dégagent une atmosphère de solitude et d'oppression. Alors, il faut savoir que cet album a été. En tout cas, le tableau a souvent inspiré d'autres illustrateurs et dessinateurs. C'est vraiment un tableau qu'on retrouve fréquemment. Philippe Caza, Druyet ou encore Milo Manara l'ont également représenté dans des œuvres ou des illustrations.
Les frères Brizzi aussi. Dans une de leurs dernières parutions, dans l'enfer de Dante,
peut-être, c'est possible.
C'est pas dans l'enfer de Dante, je ne sais plus quel album, mais effectivement, il le représente.
Où c'est des portions. Alors voilà, sur la planche 17, page 19, le héros de la bande dessinée française Arcane de Jean-Pierre Pello. Suitané Peters dans la série La Cité Obscure, dans la dernière planche de l'enfant penché. Mm-hmm. L'épisode 224 de la série Martin Mystère de l'italien Luigi Coppola, tiré l'Isola dei Morti. Et enfin, dans le tome de Télémaque chez Dupuis, l'île de Circé est terriblement inspirée de cette fameuse île. Alors, j'aurais peut-être dû ramener un tableau, j'ai pas pensé, mais c'est pour nos auditeurs. Je vous invite à aller voir ce tableau qui est vraiment très particulier. Il y a une espèce de chape de noir au centre avec cette barre qui s'y engouffre.
Et puis il y a la lumière aussi. La lumière du tableau
Alors, chaque tableau, elle est particulier. Chaque tableau est différent. Il faut savoir que chaque commande de ce tableau a été réalisée par Böcklin, mais chaque tableau est complètement différent. De temps en temps, on va voir les cyprès dont la cime des arbres bouge au vent. La fois d'après, peut-être que l'île a un peu changé, la morphologie des rochers ou même des tombeaux a changé. Donc c'est une œuvre éminemment très intéressante. Et donc on va la retrouver dans cette aventure en 5 tomes au départ, mais réunie dans une intégrale, qui parle de cette œuvre, qui est un peu le centre de l'inspiration de l'œuvre complète, on va dire. Le tableau, au départ, a inspiré l'auteur, et puis c'est devenu une histoire, et ça s'emballe autour de ça. Donc ça, c'est assez, c'est intéressant. Voilà. Voilà pour la petite partie autour de Lovecraft et d'un tableau qui sert d'inspiration à des artistes. Et la seconde, alors cette fois-ci, je vais m'appesantir cette fois-ci sur l'œuvre de Scott McCloud intitulée Le Sculpteur. Alors, gros pavé, là, ouais, attention, il y a quoi sculpter, là, quand c'est capable de le dire. gros pavé. Très bel ouvrage. Alors, dans cet ouvrage, la particularité, alors, je spoil pas vraiment, parce que les personnes qui liraient le bouquin s'en rendraient vite compte, c'est qu'on on commence avec la mort du personnage. Voilà, c'est le personnage meurt. Bon, on dit, bah, super, bon. Ça commence comme ça. Bon, l'histoire de David Smith, un artiste fauché, qui essaie de retrouver de la notoriété, va alors passer un pacte un peu faustien. On rejoint toujours un petit peu la mort avec l'île des morts, mais un pacte faustien. Alors, c'est pas le diable, c'est la mort. Donc la mort, elle se moque un peu de savoir si c'est bien ou mal. Enfin, elle lui propose quelque chose et il va accepter. Elle va lui proposer cette mort qui prend l'apparence de son oncle qu'il rencontre au tout début de l'œuvre. Il se rend compte, mais il est en train de boire, il dit, mais mon oncle est mort depuis un bout de temps, et c'est cet individu qui revient sous la forme de cet oncle et qui lui propose ce pacte. Soit tu vis une vie classique, normale, tu auras des enfants, tu auras un chien, une maison, un labrador, la vie, bon, puis ça passera et tu auras une belle vie, mais tu ne réaliseras pas tes rêves, tu ne réaliseras pas ton haut potentiel. Soit je te donne 200 jours, dans 200 jours tu es mort, et tu réalises ton l'œuvre de ta vie, quoi. Tu fais quelque chose de fabuleux. Et donc là, bien sûr, il va choisir de retrouver la notoriété, de devenir célèbre, à faire l'œuvre de la vie, peut-être marquer les mémoires, et un peu comme Achille, finalement, qui aurait peut-être préféré à la fin de sa vie, devenir juste un pauvre paysan que de mourir à Troie. On rejoint un petit peu ça. Alors, l'aspect faustien, ça reste là. Ça reste vraiment là. Il n'y a pas un copier-coller de l'œuvre de Faust. McCloud, là, nous livre une très belle BD, hein, loin des comics de super-héros. Alors, ceci dit, il va vivre 200 jours, mais il aura un super pouvoir. C'est pour ça que je suis comme le spécialiste des comics.
Des super pouvoirs.
Des super pouvoirs, etc. Donc, il y a quand même cette notion de super pouvoir qui intervient, parce que l'oncle, à la mort, va lui donner la capacité de modeler la matière avec ses mains. Le métal, le fer forgé, la pierre. Rien qu'avec ses mains et puis sa pensée, il va pouvoir modeler les choses avec une rapidité incroyable. Et du coup, oui, ça va lui permettre de faire des tas de choses très rapidement, bien sûr, plutôt qu'avec un burin et un marteau. Voilà. Donc là, l'œuvre de McCloud est assez sympa. Dans un registre complet, lui, il maîtrise vraiment bien ce mode de communication. Hein. J'en veux pour cause, Scott McCloud, l'art de l'invisible, où il y a aussi l'art de faire de la bande dessinée, où là, il est théoricien. Hein. Pendant plus de 15 ans, il va théoriser la bande dessinée, il va maîtriser cet art d'une manière absolue. Là, à travers cet ouvrage, Le Sculpteur, il se livre un exercice de style. Alors, c'est un très bon bouquin, hein. faut pas se leurrer. Mais pour quelqu'un qui maîtrise cet art, enfin qui maîtrise la théorie en côté de la BD, j'aurais attendu quelque chose d'un petit peu plus. On ose un peu plus. Voilà, j'aurais voulu ça. En tout cas, le bouquin est superbe, magnifique. Ça rebondit en permanence. Bien sûr, il y a une petite histoire d'amour dedans. Vous doutez bien qu'en 200 jours, il va se passer des trucs. Donc du coup. Voilà, donc David Smith, excusez-moi, le héros, Steve McCloud, nous présente là un très bel ouvrage que je conseille de lire. Alors, ne soyez pas restreints par la quantité du livre, ça se lit en quelques heures, et c'est vraiment splendide et magnifique. Voilà.
Ben super.
Voilà. On peut parler peut-être de quoi maintenant, du coup?
Bon, conseil. Tu avais quelques secondes pour parler de Baru.
Quelques secondes pour parler de Baru, oui, qui a réalisé donc l'affiche du Festival de théâtre aux actes citoyens, qui se déroulera à Tomblaine du 18 au 25 mai. Il rencontrera le public le mardi 21 mai à 16h30 à l'espace Jean Jaurès. Cette rencontre sera suivie d'une séance de dédicace de ses derniers albums de 17h à 19h. Alors, save the date, le mardi 21 mai, 16h30, Baru à Tomblaine.
Notez bien.
Voilà, 21 mai. 16h30. Ah bah Charles, voilà, t'écoutes pas.
Hein? Charles n'était pas avec nous.
16h30.
16h30, hein, tiens. Alors, les événements du mois de mai.
Au mois de mai.
On y va.
Joli mois de mai.
Allez.
Le week-end prochain, le 4 et 5 mai, le Rayon Vert.
2024. Le 4 et 5 mai à Volcrange. Pour ceux qui n'auraient pas de GPS, Volcrange est au nord de la Moselle, à quelques kilomètres de l'ouest de Thionville.
C'est la 12e édition, l'entrée est gratuite.
Bien sûr.
Et il y aura du beau monde.
Il y a du beau monde. Le rayon est au festival de l'imaginaire, vous y retrouverez beaucoup d'auteurs. Bon, des membres de Philactère, un peu auto-promo, évoqué Carl Renaud, Anso, Michel Salvino, Guillaume Mathias, ainsi que moi-même. Manolo Prono.
Avec Stooges Bar Adventure.
Stéphane de Créty avec sa dernière sortie, Gueule de cuir.
Un polar médiéval scénarisé par Pierre Pével.
Et oui, Bones pour Blood Moon, un récit d'horreur au label 619.
Oui. Et J. Person avec le très poétique
Nuage chez Glénat.
Voilà. Ville et BD.
Ville et BD, le week-end du 18 et 19 mai. À mettre dans vos agendas, bien sûr. Bien 12e sûr. Édition du festival Ville et BD. Plus de 40 auteurs seront présents, parmi lesquels
Benou et Nancy Delvaux, qui viendront présenter Léo la Terreur, une BD jeunesse.
Francis Bergès, spécialiste de la BD des aviations. Il a entre autres dessiné plusieurs albums de
Buck Danny, ouais. Thierry Giraud pour son travail sur le western.
Durango.
Herman.
L'infatigable.
Herman. Infatigable. Comme
qui
Charles.
Vient présenter Brigantus, une nouvelle série médiévale scénarisée par Yves H.
Son fils.
C'est son fils. Yves H. Ouais, voilà.
Il y aura aussi Jean-Christophe Nègre pour Jeanne de Belleville.
Et l'histoire d'une femme pirate sillonnant les mers pour venger son mari. Ça va plaire à Yves. Ça. Yves
ah oui, d'accord. Ouais, oui.
Sébastien Philippe.
Ouais, spécialiste de la BD d'aviation aussi.
Qui dessine plusieurs temps qu'il a verdure, et Raphaël Ortiz, qui viendra représenter Au cœur de la Terre.
The Tribe.
L'adaptation.
L'adaptation de Edgar Rice Burroughs.
C'est ça, par Jean-David Morvan.
Bah oui.
Et bien sûr, quelqu'un de l'association Philatère, bon, nous les Globetrotters, on est un peu partout, hein, tous les festivals, de côté l'un, on est présent.
Voilà, puis il y aura plein d'autres.
Des confirmés, des moins confirmés, des régionaux, bref. L'exposition de cette année sera consacrée à Philippe Lugy.
Oui.
Percevant, hein, oui, château de Madame de Graffigny. Alors, très belle exposition qui sera du 4
au fin mai.
Du 4 au fin mai. Début mai, fin mai. Voilà, super. Des personnes de la base de Nantes.
Il y aura toute une animation en fait, autour de l'aviation. Il y aura des faucons, je crois, qui vont venir faire des petites démonstrations.
Des personnes de la base de Nancy-Hochet seront également présentes pour expliquer leur métier.
Voilà.
La salle de Mélissandre de Centre des Écrins accueillera une exposition de maquettes d'avions, des documents relatifs à l'aviation. Voilà.
Etc. Donc, tout plein de choses, un week-end festif, familial. Et comme on aime bien.
Tout l'enseignement, toujours.
Sur la page Facebook.
Voilà.
Le son des bulles.
Son des bulles.
Et puis voilà, donc on se donne. Merci beaucoup, les amis.
Merci beaucoup, Charles,
pour ces découvertes. Et puis on se donne rendez-vous fin du mois de mai, pour une spéciale élection européenne.
Et oui.
Alors là, si je ne me trompe pas. Alors là, bon courage.
Bon courage pour trouver les thèmes, les amis. Moi, j'ai déjà trouvé le lien, c'est bon.
C'est vrai ?
La dictature.
Vénard. Eh bien, merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.